De traverse de la recherche.
Radio Campus
Grenoble
90.8.
Et si nos fragilités étaient notre vraie force, et si la limite de nos corps et de nos esprits devenaient les clés de notre humanité future. Bienvenue dans cette émission, les chemins de traverse de la recherche, aujourd'hui consacré à un sujet passionnant, la science-fiction et les handicaps. Retour sur un colloque singulier qui a bousculé bien des idées reçues, organisées les 2, 3, 4 avril dernier par Philippe Fonio et Clément Pelissier qui est présent dans nos studios ce matin. Il est 10h.
Le film que vous allez voir n'a pas de caractères. Si vous sparez un peu de votre imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter.
Nigel Stanford est un compositeur néo-zélandais, surtout connu pour sa bande originale du film Timescape, réalisé par Tom Lowe, ainsi que ses clips Cymatics et Automatica. Clément Pelissier est docteur associé à l'UMR Littésiard, auteur conférencier. Bonjour Clément.
Bonjour.
Un habitué de la radio, bien sûr.
Oui.
Alors, c'est avec toi que nous allons revenir sur ce colloque riche en échanges et en réflexions qui a bien sûr rassemblé chercheuses et chercheurs, auteurs, autrices passionnées de science-fiction et personnes concernées par le handicap. Alors, Clément, l'objectif de ce projet était-il d'explorer la manière dont les univers imaginaires et de la science-fiction abordent la question du handicap? On va dire non pas comme une simple faiblesse à surmonter, mais comme un élément structurant de l'identité de la société, voire de la technologie elle-même.
Oui, en fait, l'important dans ces sujets-là, et surtout par le prisme de la science-fiction, c'est d'observer, en fait, non pas des futurs, mais peut-être bien un ensemble de présents possibles. Et en fait, la question des handicaps, parce que c'est bel et bien pluriel, il y a les handicaps physiques, neurologiques, psychiques, tu as également les handicaps invisibles, bien sûr. Et cette question plurielle des handicaps, elle est sociétale, elle est on ne peut plus actuelle aujourd'hui, et l'observer par le prisme des des imaginaires de la science-fiction permet en fait de poser des hypothèses de pensée sur certains futurs, mais aussi sur certains présents qui n'existent pas, qui existent parallèlement au nôtre, ou qui pourraient exister. C'est, pour moi, la science-fiction est une hypothèse de pensée, et c'est pour ça que le handicap semblait particulièrement inspirant, enfin les handicaps, pardon, semblaient particulièrement inspirants pour l'observer au cours de ces 3 jours de colloque.
Contrairement donc à l'image, on va dire lisse, qu'on pourrait se faire de la science-fiction avec ces héros surentraînés et ces technologies futuristes, le genre est en réalité traversé par des figures fragiles, brisées, augmentées ou simplement différentes. Alors, quelles furent les grandes thématiques abordées lors de ce grand rendez-vous du donner et du recevoir?
Bah, on voulait surtout pas limiter les sujets et les supports, c'est-à-dire que on pouvait vraiment exploiter tous les supports de la SF possibles et imaginables, et puis surtout tous les handicaps. On voulait pas justement restreindre les thématiques. On voulait aborder tous les on voulait laisser aux communicants et aux communicantes la possibilité d'aborder tous les handicaps pour justement montrer, et ça c'est bien quelque chose que l'appel à communication déjà à la base avait mis en avant, pour bien montrer justement que le thème de la limite, de la limitation, ce n'est pas forcément un synonyme de faiblesse, mais simplement un synonyme d'adaptation et de parcours de vie des personnages, des parcours de vie qui nous ressemblent peu ou prou, mais en tout cas qui ont le mérite d'exister dans la fiction et parfois dans nos réels, et qu'on voulait observer.
D'accord. Alors, nous allons prendre juste un petit temps d'oxygénation et revenir tout de suite après cette belle page musicale choisie par Clément Heavy Metal.
Quand le vent fait vibrer mes ailes, je suis prêt à m'envoler. Si je m'élève dans le ciel, c'est sans bouger.
toujours plus haut du sortilège, un groupe de heavy metal français fondé en 1981 à Paris, considéré comme une figure emblématique du metal francophone des années 1980. La chanson Knock révèle le handicap, nous sommes bien trempés comme une expérience de la verticalité. Alors Clément, revenons avec toi. Le colloque s'est voulu donc interdisciplinaire et interculturel. On a eu droit à littérature, cinéma, séries, bandes dessinées, jeux vidéo, manga, plastique, etc. Et alors rien n'a été exclu. Hein. Pourquoi et comment se présentent donc les récits de science-fiction ?
Alors, avant de répondre, je veux juste revenir sur une petite chose, c'est que ce colloque ne se serait pas fait sans soutien de structures et de personnes qui nous ont aidés au niveau logistique et au niveau financier, et il faut que je les remercie, c'est la moindre des corrections, c'est comme, c'est voilà. Donc je pense notamment au laboratoire Littéar, donc évidemment l'UMR 5316 de l'UGA, Imaginaire et Socio-Anthropologie, ISA, donc j'ai une pensée particulière pour Isabelle Krikowski, pour également, que nous au passage, également un salut et un merci tout particulier aussi aux responsables administratives et financières, Ludivine Raimondo et Magali Garnier, qui ont été absolument essentiels.
Que nous saluons au passage.
Que nous saluons aussi, qui ont été absolument essentiels dans tout ça. L'Université Grenoble-Alpes, évidemment, Grenoble INP UGA. La vie étudiante de l'UGA nous a aidés. Donc, remerciements spéciaux à Amélie Nuc, avec laquelle j'ai été en contact. Florent Brozoni, Claire Yemfre, Ariel Granon, pour citer l'équipe. Grenoble-Alpes Métropole, hein, GAM, qui nous a soutenus financièrement. Donc, merci beaucoup à la Métropole. Et bien évidemment, Association Stella Incognita. Et il faut que je précise une chose, grande fierté, parce que ça va répondre en partie à ta question. Nous avions un intervenant sourd de l'université de Paris, de Paris 8, qui était Yann Quentin, donc un spécialiste, un maître de conférence sur la question de la surdité. Et il se trouve que nous avons eu la chance d'avoir la SCOP mot pour mot, qui est une SCOP d'interprétariat en langue des signes française. Et c'est une association qui, grâce au soutien de Paris 8, a pu nous accompagner pour Yann Quentin, justement, et pour lui interpréter le colloque en langue des signes pendant toute la durée du colloque. Et ça, c'est quand même une prouesse incroyable et une possibilité d'inclusivité incroyable. L'université de Grenoble, l'UGA, est quand même accessible aussi au niveau des déplacements. On a eu une personne en situation de cécité, une personne aveugle avec un chien guide qui a pu communiquer tout à fait normalement. Voilà, donc c'est pour dire que justement, la science-fiction nous a permis aussi de montrer des vécus tout à fait tangibles. Et en fait, ça a été incroyable de naviguer dans des mondes imaginaires en étant accompagné par des gens qui vivaient ça au quotidien. Je suis moi aussi concerné par le handicap, j'ai un handicap moteur et cérébral, donc j'ai pu faire une conférence. Donc voilà, c'était aussi important, et ça répond enfin à ta question, c'était aussi important de pouvoir demander leur expertise à des personnes complètement concernées. On a eu des personnes en situation de neuroatypie, neurodivergence, qui ont pu justement nous parler de personnages neuroatypiques dans la science-fiction, parce qu'ils étaient, elles étaient, les personnes les mieux placées peut-être pour pouvoir nous en parler et pour avoir leur prisme d'analyse. Donc c'est vraiment important de se dire que la science-fiction, c'est pas simplement des récits qu'on écrit pour s'amuser, même s'il le faut aussi, c'est aussi des récits qui résonnent et qui ont une véritable portée dès maintenant, en fait. Voilà.
Et ce qui est beau donc dans ce récit, c'est qu'ils ne réduisent jamais donc le personnage à son handicap. Ils montrent qu'on peut être puissant et fragile, oui. Comme Hulk par exemple, ou encore hyper connecté, mais replié sur soi, comme certains personnages d'Octavia Butler, voire souverain sur son trône roulant, comme le professeur Xavier des X-Men. Oui. Voilà. Alors donc dans ces fictions, le handicap n'est pas un obstacle. C'est finalement une expérience du monde, une manière d'exister autrement, ou une source de pouvoir, mais aussi de responsabilité.
Oui, et comme tu viens, alors tu viens de citer le thème du super-héros qui exploite ces limitations. On peut aussi parler de Daredevil, qui est un super-héros aveugle. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la série Netflix Born Again, foncez dessus, elle est excellente, vraiment, avec Daredevil, qui justement nous parle de l'imaginaire de la cécité avec une espèce de surcompensation, hein, du sens perdu de la vue. Et puis, par exemple, je peux penser à Plume des Sèvres, nous sommes la poussière, hein, qui a été invité d'honneur des Imaginales cette année. Justement, à Épinal, le thème c'était hors norme, précisément, on était en plein dedans. Et le récit de Nous sommes la poussière, c'est justement une personne neuroatypique qui va, Elias, donc, qui est super sensible aux particules de poussière qui existent dans l'air, donc récit de SF, mais qui développe une certaine forme d'hypersensibilité qui tient presque de la fibromyalgie, donc qui est une suractivation sensorielle et physique, hein. Les personnes atteintes de fibromyalgie peuvent connaître de très grandes souffrances. Et en fait, ce personnage-là va dans sa neuroatypie et dans son hypersensibilité à la poussière, voilà, raconter son parcours et vivre au-delà de sa limitation, ce qui permet à l'autrice, voilà, de nous raconter un peu ce que c'est qu'un vécu dans la douleur, ce que c'est que de surpasser la limitation, des limitations qui sont quotidiennes et qui sont quasiment héroïques si on met à une échelle valide quelque part.
Alors, si Clément, tu permets, nous allons revenir sur ce titre de Dub Inc.
Oui.
Et voilà, auditeur, auditrice, on essaie de connecter pas, on revient tout à l'heure. Après, Inès.
Vivre libre ici ou en exil, j'aimerais seulement qu'on me laisse. Si mes droits sont respectés, je signe, et bien évidemment qu'on cesse de me montrer du doigt. J'imagine que tous les bienveillants oppressent ce pouvoir pour que l'on l'élimine. J'aimerais seulement oublier la violence et la haine. J'aimerais seulement assumer mes envies et mes rêves. J'aimerais seulement que les gens ne soient jamais les mêmes. Et bien évidemment, lever la tête et briser mes chaînes. En silence, je vis ma vie à travers des écrans. Je n'ai que ça, ce n'est pas ma faute. Je ferme les yeux et souvent je me mens. Je rêve de pouvoir défier l'autre. À coups de pierre, je me bats dignement. Que ceux qui règnent y infligent des fautes. Ma colère montre mes mots plus méfiants. Que les croyances nous séparent de l'autre. Oh, oh, oh. Qu'on me laisse vivre libre ici ou en exil, j'aimerais seulement qu'on me laisse. Si mes droits sont respectés, je signe, et bien évidemment qu'on cesse de me montrer du doigt. J'imagine que tous les bienveillants oppressent ce pouvoir pour que l'on l'élimine. J'aimerais seulement j'aimerais seulement en silence, je vis ma vie à travers des écrans. Je n'ai que ça, ce n'est pas ma faute. Je ferme les yeux et souvent je me mens. Je rêve de pouvoir défier l'autre. À coups de pierre, je me bats dignement. Que ceux qui règnent y infligent des fautes. Ma colère montre mes mots plus méfiants. Que les croyances nous séparent de l'autre. Vouloir vivre dignement, comme là. Pouvoir me détacher d'un passé bien trop violent. Survivre à mes pensées, que mon cœur, mes sentiments, comme ça. Ne soit dévoilé au plus riche, au plus offrant. Non mais pas les illusions se brisent. Vouloir vivre dignement, comme là. Pouvoir me détacher d'un passé bien trop violent. Survivre à mes pensées, que mon cœur, mes sentiments, comme ça. Ne soit dévoilé au plus riche, au plus offrant. Ramzalab, j'hel, souan, sel, khalet, aoukti, joujous. الملك ملت تغني تبعونا غريب فاسم خمسة لف شحر سوان سلخانت أوقت جو جوت الملك ملت تغني تبعونا غريب فاسم
Inès du groupe Dobin, qui extrait de l'album Support, sorti en 2016, aborde la guerre, l'exil et ses effets sur eux. Les enfants vus à travers le regard d'une fillette, Inès, bien sûr, qui a fui un pays en guerre. Nous revenons donc en studio, bien sûr, avec Clément Pellissier. Je vous le disais, c'est un habitué des locaux, et un mastodonte de la radio.
Mastodonte, voilà. Je ne sais pas, habitué, c'est sûr. Mastodonte, je ne sais pas. Louis m'a dit ce matin que j'étais hyper baraqué, alors peut-être que...
Bien, donc pendant trois jours, les participantes ont exploré ces figures-là, ils ont croisé les regards et ce qui ressort finalement, est-ce donc la richesse de ce champ des handicaps dans la fiction comme un champ multiple qui traverse les cultures, les supports et les époques?
Bien sûr, moi par rapport au handicap, je vous l'ai dit, je suis concerné. Je trouve qu'en fait, on est un peu des cailloux dans les chaussures, mais à toute fin utile, c'est-à-dire pour rappeler qu'en fait, avoir un corps, un esprit fonctionnel, une santé fonctionnelle, ce sont des privilèges. On s'en rend pas compte à partir du moment où on n'a aucun problème, ni psychique, ni physique, ni cognitif. On a du mal à se rendre compte à quel point le corps fonctionnel est précieux et est un privilège. Et je pense que les handicaps sont là pour nous rappeler que ce soit de naissance ou par un accident, par les aléas de la vie, parfois pas vraiment drôle, eh ben ça peut changer parfois du jour au lendemain, parfois d'une seconde à l'autre, des vies qui sont bouleversées. Et je crois que la science-fiction est là, l'imaginaire en règle générale, et la science-fiction en particulier, n'est pas là pour faire du pathos, parce qu'en règle générale, les personnes en situation de handicap n'aiment pas le pathos, parce qu'on c'est pas l'enjeu, mais simplement de rappeler qu'il y a effectivement, comme tu l'as dit, un ensemble de voix qui sont là non pas pour se battre avec les gens valides, hein, même si je combats à toute force toute forme de validisme évidemment, mais moi je suis partisan d'un dialogue au travers de l'imaginaire, notamment puisque c'est mon métier. Je suis partisan d'un dialogue entre les différents groupes pour justement arriver à parler de l'imaginaire et à faire ressentir ou comprendre un peu mieux, parce que quand on on sort des chiffres et des statistiques, bah c'est pas très drôle, c'est pas très attrayant. Alors que quand on explique les choses au travers d'un récit divertissant, porteur, bah du coup ça parle beaucoup plus aux gens, parce que justement la SF a un côté aussi, l'imaginaire a un côté, a une force d'évasion et a une force de parole encore plus prégnante, je trouve. Parce que justement, on est dans des mondes qui nous permettent de nous évader un petit peu du quotidien, mais on peut aussi rappeler qu'il existe dans ces prismes-là des vécus qui se trouvent à deux pas de nous, que ce soit avec des cannes, avec des fauteuils ou des handicaps invisibles. Et je trouve que, voilà, encore une fois, ça permet justement cette pluralité et ce dialogue qui est absolument essentiel, parce que parfois, dans les situations de handicap, on se retrouve face à des solitudes qui sont terribles, des isolements qui peuvent être terribles. Et je trouve que la possibilité de prendre la parole me paraît tout à fait essentielle aujourd'hui, encore plus que jamais, quoi.
Alors, auditrice, auditeur, est-ce que vous avez manqué donc le colloque, hein? Clément est maintenant, bien sûr, une très bonne nouvelle. Alors, oui. il paraîtrait que les actes donc de ce colloque sont à paraître et qu'ils réuniront donc, on va dire, les interventions, mais aussi des analyses inédites sur la manière dont les imaginaires, bien sûr, science-fiction, façonnent donc nos représentations du handicap.
Oui, alors ce ne sera pas pour tout de suite, on sera plutôt sur 2027, parce qu'en fait, avec Stella Incognita, l'association qui portait ce colloque, eh bien nous éditons les actes de colloque d'une année sur l'autre, d'une année de recul sur l'autre. Et donc, du coup, on va plutôt se consacrer en 2026 à l'édition du colloque qui avait été organisé dans les imaginaires de la science-fiction avec Esprit Futur à Paris. Mais du coup, effectivement, en 2027 paraîtront ces actes de colloque qui seront coédités donc par moi-même et par Jérôme Goffet, membre de l'ITR et professeur à l'université Lyon 1. J'en profite d'ailleurs pour remercier mes collègues de Stella Incognita, donc qui est un collectif, comme je vous l'ai dit, dont je fais partie, de chercheurs et chercheuses sur l'ASF. On a un colloque annuel, et cette année, enfin 2025, donc c'était à moi qu'incombait la tâche d'organiser le colloque, avec le soutien bien évidemment de tous les gens que j'ai cités, et notamment de Filippo Fogno. Donc, tous ces soutiens-là, je l'ai déjà dit, ont été essentiels, mais surtout je tiens à saluer déjà mes collègues de l'IDEAR et à dire à quel point leur soutien, notamment psychologique et même logistique pendant le colloque, a été absolument essentiel. Parce que, mine de rien, arriver à organiser, à porter un colloque, eh bien, c'est un accomplissement, d'autant plus qu'on a pu faire venir aussi des performeurs, des artistes, donc Christophe Siebert et Mauricio Amarante, que je salue, qui ont pu faire des performances de lecture musicale, et avec le soutien de Campus Grenoble, que je crois, j'ai oublié de citer, je ne sais plus, mais je le fais maintenant, et notamment de Louis et ses confrères, on a pu faire un truc absolument génial en direct. Et donc vraiment, merci d'avoir fait tout ça, parce que justement, quand on organise un colloque, on peut se trouver face à des situations handicapantes, parce que c'est très 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 énergivore d'organiser un colloque, c'est très 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 difficile. Mais par contre, quand vous en sortez vivant, eh bien c'est extrêmement formateur. Et encore une fois, si les responsables administratives et financières n'avaient pas été là, notamment, je ne sais pas comment j'aurais réussi l'exploit à transformer l'essai de rugby dans ce colloque. Donc effectivement, éditer aussi des actes de colloque, c'est du travail, parce qu'il faut évidemment compiler les textes et les éditer, donc voilà, ça va nous prendre du temps, mais ce sera édité certainement chez Book and Demand comme d'habitude, donc du coup on va en profiter ça va être encore une pierre à l'édifice de Stella, et je l'espère une pierre à l'édifice dans les imaginaires des handicaps, voilà, à venir.
Ah, c'est parfait. Rainy Night, on revient encore tout à l'heure. Oui.
Thank you.
Helen Knight, une piste instrumentale et vocale atypique, une parenthèse de mélancolie dans l'univers stroboscopique signé Stupefly. À travers une forme dépouillée et intime, donc King Joon y expose une humanité à vif. La nuit, il devient un espace de soins intérieurs, loin donc des postures habituelles de toute puissance. Nous revenons à nos micros avec Clément Pelussier. Alors finalement, est-ce qu'on peut dire que ce colloque a rappelé que la science-fiction n'est pas une fuite dans le futur, mais un miroir du présent qui permet de repenser la norme, d'interroger nos peurs, nos désirs et nos différences.
Ah oui, complètement. Et j'irai même plus loin. Je pense que la science-fiction, dans le futur ou pas, n'est de toute façon pas une fuite. Au contraire, pour moi, c'est un acte de confrontation directe à ce que à la vie, en fait. L'imaginaire n'est pas le contraire du réel. Mm-hmm. C'est une forme de réalité. C'est vraiment une forme de réalité. Je veux dire, c'est pour moi, c'est une conviction. C'est même limite un choix spirituel. C'est pour ça que j'ai fait ces études-là et ce métier-là. C'est que vraiment, pour moi, l'imaginaire, les imaginaires au pluriel, nous confrontent de plein fouet au réel. Vraiment.
Alors, tu me disais dans les coulisses que tu travailles d'arrache-pied sur deux ouvrages. Assez important.
Oui.
Dans le premier traite des handicaps dans la pop culture et le second sur la sexualité et l'intimité dans le handicap. Alors, quel type de handicaps sont, on va dire, les plus fréquents dans la pop culture contemporaine et... Voilà, d'abord c'est la première question.
Alors c'est des projets en cours, c'est pas encore signé, c'est pas encore acté, mais c'est en cours. Ça devrait normalement m'occuper une bonne partie de 2026-2027, je pense. En termes de représentation, dans la pop culture, tu as à peu près tous les types de handicap représentés qui peuvent être représentés. Moi, je sais que j'avais fait justement lors du colloque une conférence là-dessus en citant notamment Inspecteur Gadget, qui pour moi est un cyborg handicapé, hein, vieille figure des années 90 avec un policier un peu stupide mais bardé justement de tous les gadgets, mais qui sont autant de prothèses finalement pour lui. J'avais cité Daredevil, j'avais cité Robocop qui pour moi est une forme de cyborg handicapé puisque on retrouve avec la figure de Robocop de Paul Verhoeven, quelque chose d'un cyborg extrêmement puissant, mais également extrêmement limité, extrêmement lourd. Donc en fait, voilà, que ce soit les handicaps invisibles, les handicaps cognitifs, psychiques, ou les handicaps physiques, alors moi je vais être particulièrement sensible, je l'avoue, aux handicaps moteurs, psychomoteurs, puisque c'est un handicap que je vis, donc je vais être particulièrement sensible à ces figures-là. Mais voilà, ça va être l'occasion d'observer finalement les figures de différents rejets. Par exemple, j'ai l'intention de citer la créature de Frankenstein, qui pour moi est symptomatique d'un rejet social, physique. Alors il n'est pas handicapé au sens où on peut l'entendre au niveau contemporain. Par contre, c'est un monstre que Mary Shelley nous dépeint comme complètement difforme, complètement monstrueux, mais qui pourtant a le désir d'être aimé, a le désir de vivre de manière légitime auprès de Victor Frankenstein et d'une créature qui lui serait désignée pour accompagner sa vie. Donc voilà, ce sont des. Je voudrais parler de toutes ces figures, enfin de toutes. J'ai pas la prétention de les aborder toutes, mais de quelques figures d'exclus, de quelques figures d'exclus qui ont jalonné ma vie à moi, en fait, mon vécu à moi, au travers des parcours de soins aussi, de la kinésithérapie, de l'ergothérapie, tu vois, des choses qui m'ont permis à moi aussi d'appréhender mon univers et mon environnement de manière plus sereine, de manière un peu plus normative, on va dire, avec beaucoup d'assistance. Voilà. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu les personnes, notamment soignantes, pour m'aider, il ne faut pas oublier que ce sont des chaleurs humaines mobiles et que ce sont des gens qui, les 98% du temps, sont des gens incroyables et adorables et qui ont une humanité et un dévouement aux autres qui forcent le respect. Donc voilà, je suis très reconnaissant.
On va dire, dans ce livre, tu abordes aussi la question de la sexualité. Alors, quels sont les tabous donc, sociaux, on va dire, autour de la sexualité des personnes en situation de handicap?
Alors ça, c'est un deuxième projet, par contre. Ce serait un livre séparé, en dehors de pop culture et handicap, même si on peut parler de sexualité dans la pop culture et des handicaps. Mais là, ce serait vraiment un ouvrage beaucoup plus sociétal, beaucoup plus axé là-dessus. La question de l'intimité et pas juste la sexualité. En fait, ce que j'aimerais observer, c'est en fait les limitations de ces personnes. Encore une fois, beaucoup beaucoup, beaucoup par rapport au prisme du handicap moteur, qui est encore une fois un handicap que je connais bien, mais les handicaps mentaux et cognitifs ne sont pas à exclure, évidemment, bien sûr. En fait, ça pose la question du désir, des corps limités ou des esprits qui peuvent parfois avoir des limitations. Et en fait, le truc, c'est que quand on observe un peu les témoignages, quand on lit les témoignages des personnes, on se rend compte que bah, parfois il y a une négation du désir de ces corps-là, alors qu'ils sont tout à fait légitimes. Évidemment, le désir de ces corps est tout à fait légitime. Ça pose toute la question de l'assistance sexuelle, par exemple, notamment en Suisse romande, qui est pionnière là-dessus, par exemple, ou dans d'autres pays d'Europe, la Belgique, la Suisse romande, l'Allemagne. Voilà, donc moi, je veux observer un peu ce qui se passe ailleurs qu'en France, ce qui se passe même en France, et de recueillir un peu des témoignages de personnes concernées par le handicap, l'intimité et la sexualité, dans leur parcours, dans leur exploration, dans leur désir, parfois dans leur négation, parce que quand tu es en situation de handicap, comme tu as souvent besoin d'assistance, eh bien, ça va avec une certaine infantilisation de la personne, malheureusement, et cette infantilisation, Elle génère bah, des tabous, des troubles, parce que l'enfant n'a pas, par définition, accès à la sexualité des adultes quand tout se passe bien. Donc forcément, si les adultes en situation de handicap subissent cette infantilisation, eh bien, elles vont être niées aussi dans leurs désirs, et on récupère des témoignages parfois compliqués. Mais moi, j'ai envie, encore une fois, de prendre la parole là-dessus, et pour dire qu'on peut traiter aussi de ces sujets-là, et qu'en fait, à partir du moment où tu mets du tabou, tu vas mettre du mal-être, en fait. Pour moi, le tabou n'a pas de sens. Il faut évoquer les tabous, il faut évoquer les vécus, et il faut évoquer les parcours de vie et les parcours d'humanité différents sur ces questions-là. Voilà.
Alors, Gascozé nous fait un clin d'œil du côté de la Côte d'Ivoire, un handicapé, rugueux, un artiste qui aussi chante pour exprimer cette force de la nature.
Rien que pour ma petite tête, ils se disent immortels, ils oublient que tous ces pays sur terre. N'est pas la guerre, c'est sans rancune. Il y a des gens à qui j'ai permis de gagner beaucoup d'argent, mais en éternel insatisfait, ils veulent me faire éliminer. Je vous transmettrai son nom.
Joss Kézour, porteur d'un handicap lui aussi, l'album Mon Testament, qui suggère bien sûr une œuvre à la fois intime et engagée, comme une sorte de bilan de vie ou de legs artistique et moral. À travers donc cette chanson, il semble donc vouloir laisser une trace, transmettre donc ses valeurs, ses souffrances, ses espoirs et ses expériences personnelles en la manière bien sûr d'un testament. Alors, on revient toujours avec Clément, toujours bien intéressant d'aborder ce sujet aussi passionnant. Alors, science-fiction et handicap, deux mondes que l'on croyait éloignés, qui ensemble dessinent peut-être un avenir plus humain. Clément, un dernier mot.
Merci, je crois que c'est le mot qui s'impose. Merci beaucoup de m'avoir donné cet espace de parole. Je l'ai dit, j'ai toujours un immense plaisir à revenir dans les locaux de campus. Hein. C'est beaucoup de souvenirs, puisque la première fois, j'en parlais encore à Louis, la première fois que j'étais là, c'était en 2016, donc ça fait presque 10 ans que je fréquente sporadiquement les locaux. Donc c'est toujours chouette d'avoir l'équipe des techniciens et des programmateurs qui sont là pour assurer les émissions. Et merci à toi de m'avoir donné cet espace de parole, à Ludivine aussi, Ludivine Raimondo, qui m'a proposé de participer à cette émission. On a beaucoup remercié Ludivine, du coup. Oui. On a beaucoup remercié Ludivine. Mais tant mieux, il le faut. Je suis très content aussi d'avoir pu apporter ma petite pierre à l'édifice avec ce colloque, parce que mine de rien, ça a été difficile, mais on y est arrivé. C'est indéniable, ça a eu lieu, on y est arrivé. Tout le monde était très content, notamment les étudiants et les étudiantes qui sont venus nous voir, qui ont été ravis des échanges qu'il y a pu y avoir. Donc vraiment, je suis content d'avoir, même si ça m'a énormément occupé 2025 et parfois même énormément angoissé, parce que c'est comme ça. Je suis quelqu'un d'angoissé, mais voilà, on y arrive toujours. On y arrive toujours, on transcende toujours les choses, quelles que soient les épreuves. Voilà. Donc je suis très content de tout ça, et je souhaite encore une belle vie au chemin de traverse de la recherche que tu as repris.
Merci.
du coup, merci beaucoup.
Ok. Alors, c'est ici que nous mettons pied à terre. Les bonnes choses ont parfois une fin. On aurait bien resté encore plus longtemps avec Clément Policier. Auditeur, auditrice, merci donc d'avoir été avec nous. Merci à Clément Pelissier. Rendez-vous bientôt, bien sûr, pour une nouvelle exploration de l'imaginaire, peut-être. Et en attendant, souvenez-vous, il n'y a pas de corps parfait, il n'y a que des histoires à raconter. Belles vacances d'été à toutes et à tous. Ludivine Raimondo et toute cette dynamique équipe Politésar, Claire Lire, Louis, les doctorantes et doctorants, allez, restez sur la 90.8 FM, Litésarement radiophonique.
Lo no conozco. De la recherche.
Radio Campus. Grenoble.
90.8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888